Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, début de semaine en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. On a pu sortir 22h, 23h, c'est le rendez-vous de toute la scène française, inclusive au maximum, à podcaster évidemment. Ce soir, nos invités sont Nicky de Miller et Bertrand Betsch. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bertrand Betsch qui sort non pas un mais deux albums en même temps, Demande à la poussière et Orange Bleu Amer, une entreprise de déstabilisation des lois du marché. À ses côtés, Nicky de Miller signe son premier album, lui, Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie, au programme Le diagnostic d'une société du travail tertiaire en crise et d'une erreur de parcours professionnel qui est peut-être l'histoire de sa vie. Marion ?
Depuis 2018 et sa réincarnation en chaton, il poursuit en toute indépendance et autotune sa critique de l'époque, du milieu, de l'amour. Chaton au téléphone donc avec nous vers 22h30.
Un peu comme vous, Bertrand Betsch, il sort un album très...
Rapproché.
Très rapproché. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec la femme que vous connaissez, Nicky de Miller, parce que vous l'aviez programmée en 2012 au festival Rock sur Marne, que vous aviez créé à l'époque. C'était la deuxième édition du festival.
Absolument.
Vous vous souvenez de la femme à cette époque-là et le chemin qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, je suis très fan de la femme. Je me souviens d'un concert à la Flèche d'Or où ils étaient tous en string sur scène, à sauter dans tous les sens. C'était merveilleux.
Ah, ils ont bien changé.
Un peu plus habillés,
costume blanc, oui, d'accord.
Ils avaient des coquilles dans le slip, un peu comme dans Orange Mécanique. C'était vachement bien.
Ouais, c'est très radiophonique tout ça.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête, je suis la vengeance et la haine, et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir, et peut-être que ce soir je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain.
Côté club ce soir, c'est avec Bertrand Betsch et Nicky de Miller. Première question, est-ce que vous vous connaissiez avant de vous rencontrer dans le petit salon de la Maison de la Radio ?
Eh bien, on vient de faire connaissance il y a une demi-heure.
D'accord.
Vous avez échangé sur quoi ? Je sais à peu près toute sa vie.
Oui. Ah, c'est si court que ça ? Parce qu'il est beaucoup plus jeune, c'est pour ça.
Voilà, moi j'ai l'expérience et je scanne les gens en fait.
D'accord.
Donc voilà.
Qu'est-ce que vous avez appris sur lui qui vous a surpris ?
J'ai rien retenu, je m'intéresse pas aux gens.
C'est parce qu'on a compris. Vous connaissiez Bertrand Betsch ?
Je ne le connaissais pas.
Très bien. Eh bien, on a une heure pour faire connaissance ensemble. Des parcours très différents, tous les deux. 16 albums en comptant les deux derniers pour vous, Bertrand Betsch. Pour un parcours qui a commencé en 97, donc ça va bientôt faire 25 ans. Vous me le disiez pendant qu'on écoutait La Femme. Premier album en 97 avec cet extrait. La voix a changé, quelque chose a changé dans le phrasé depuis 25 ans.
J'ai mué.
Il était temps.
J'ai mué très tard.
Exactement. Le titre s'appelle La complainte du psycho-killer. Donc on pouvait dire que c'était sous influence Talking Heads à l'époque.
Pas du tout.
Pas du tout.
Je connaissais pas Fafafa à l'époque.
Non, c'est pas vrai.
Non, c'est vrai.
C'est vrai en 97.
Ouais.
Voilà, vous l'avez découvert à quelle occasion?
Plus tard.
Je peux pas vous croire.
C'est bizarre. Non, c'est vrai. Hein.
D'accord. Quel chanteur vous vouliez être à l'époque en 97?
Bah moi, je me cherchais.
Ouais.
Enfin, je m'étais déjà trouvé. Hein. Quand j'ai sorti mon premier album, j'avais déjà ce qui me distingue des autres. J'avais déjà une centaine de morceaux à mon répertoire.
Je suis sûr que c'est vrai. Ouais.
Et là, j'arrive progressivement. Enfin, il me reste encore du stock, mais
vous arrivez à écouler au fur et à mesure.
Oui, ça fait 25 ans que j'écoule mon stock. Et bon, j'écris aussi des nouvelles chansons. Mais j'ai fait le point récemment. Depuis 93, j'ai dû écrire 250 chansons, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Hein. Murat, il a dû en faire 2-3 000.
Ouais,
et j'en ai publié, je pense, 180. Et voilà, et je ne publierai pas tout. Hein. Donc c'est bien, ça me pousse à faire des nouvelles chansons.
En 97, je pense que l'album avait quelques problèmes. Enfin, vous aviez quelques problèmes avec cet album. Pourquoi au départ, vous n'en étiez pas heureux, alors même qu'il a rencontré un succès critique qui vous a réconcilié avec lui, en fait?
Je ne supportais pas ma voix. J'ai mis beaucoup de temps à aimer ma voix chantée. J'aime toujours pas ma voix parler, mais la voix chantée, ça a pris du temps.
Et vous l'avez retravaillé pour qu'elle soit conforme à l'idée que vous en aviez?
Pas du tout, ça s'est fait comme ça naturellement.
Parce que quelque chose a changé dans le phrasé.
Ben en fait, c'était à l'époque c'était assez inédit. C'était une voix soufflée, donc pas du tout timbrée. Et j'ai remarqué ça. Julien Doré, depuis un ou deux albums, il est en voix soufflée. Donc je vais lui faire un procès.
C'est quoi une voix soufflée? Vous voyez ce que c'est?
Ben c'est une voix qui n'est pas timbrée en fait. Et qui, alors déjà, la respiration ne part pas
du ventre,
mais elle est vraiment dans la gorge, et les cordes vocales ne se rejoignent pas. C'est soufflé, et donc on n'utilise pas les résonateurs, la respiration abdominale. Et donc voilà, c'est une sorte de filet de voix comme ça, parce que comme j'aimais pas ma voix, donc je la travestissais, et en plus je pitchais, c'est-à-dire j'accélérais les bandes pour que ça modifie encore plus les voix. ce qui accentue le côté très juvénile.
Exactement,
de la voix.
Ouais, très juvénile, très adolescent.
Et là, je vais vous révéler un détail technique important.
J'adore ce genre de choses. Nicky Demiller, vous, les premiers albums, c'est le premier cette fois-ci, mais le premier EP, c'était il y a 3 ou 4 ans, avec notamment ce titre.
Je rêve d'ailleurs de virer en cyclomoteur. Débarqué en Normandie dans une équipée sauvage à la pause de midi. L'aventure,
comment vous regardez ce titre qui était presque inaugural de ce qui va vous arriver, Nicky Demiller?
Ce titre a eu un rôle de déclencheur pour moi. J'étais pas sûr à l'époque de vouloir faire un disque sur le tertiaire ou sur quoi que ce soit. J'étais même pas sûr de vouloir faire de la musique vraiment.
Alors même que vous aviez commencé par ça, on y reviendra tout à l'heure, ouais.
Et par contre, j'aimais beaucoup Blier, j'aimais beaucoup le film Le Buffet Froid, et j'avais très envie de faire un espèce de western de trader, de cadre dans un milieu urbain comme ça. Et avec un copain réal, on est allé tourner comme ça un bataille de cadre sur l'esplanade de la Défense, et c'était l'aventure.
Donc ça commençait par un clip en fait, c'était de
ouais.
donner de la musique, mais sur des images. Aujourd'hui, c'est le premier album, Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. La musique a commencé tôt, on reviendra sur ça tout à l'heure. Mais vous avez bifurqué, entre-temps, vous avez vraiment tout plaqué, mis la musique de côté. Pour quelle raison, justement? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai commencé la musique extrêmement jeune, à 14 ans, avec le groupe Les Brats. À 17 ans, nous avons fait la première partie d'Iggy Pop et des Stooges au Zénith de Paris. On a été propulsés comme ça.
Du entre.
Et du coup, ben moi, on s'est fait huer, hein, fatalement. Et du coup, moi, je me suis rasé le crâne. Après, je voulais pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Ça a été un peu traumatisant. Et puis, c'est vrai que de rencontrer le milieu du showbiz à cet âge-là, c'était pas super.
C'est-à-dire que vous vous êtes fait rouler dans la farine, par exemple?
Ouais.
Il y a eu des attouchements?
Oui.
Non, oh, mais
en fait, c'est qu'on savait pas. De toute façon, il n'y avait pas de farine à rouler parce qu'on n'allait pas cartonner. C'est juste que c'était dur de vivre ça. Ça a cassé un peu le rêve. On a perdu l'envie aussi de faire de la musique qu'on avait au début. On était des ados qui avions une envie très simple qu'on a perdue. Et puis moi, surtout, je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie dans la musique. Je voyais pas du tout comment on pouvait en vivre. Du coup, chez moi, mon père travaillait dans les assurances. Ma mère, artiste peintre, qui était plutôt entretenue par mon père. Du coup, pour moi, soit on était artiste, soit on était entretenu. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, j'ai cherché un travail, comme tout le monde, quoi.
Et ça, pendant 10 ans, on reviendra justement sur ce que vous avez fait avant de retrouver la musique à l'aube de vos 30 ans. Tout de suite, premier extrait du nouvel album de Bertrand Betsch, enfin d'un des deux albums de Bertrand Betsch, Demande à la poussière.
Demande à la poussière, elle te dira quoi. Elle te dira pourquoi, elle te dira suis-moi. Fais bien toutes tes prières, tu chanteras sous terre, tu regretteras hier, t'auras un goût amer. Hachis to hachis, death to death. No more wishes, no more less. Ashes to ashes, dust to dust. No more wishes, more and more bruises. Demande à la poussière, regarde bien derrière. Tout est fracassé, on n'aura rien laissé. On aura bien tenté, mais tout est pulvérisé. Regarde un peu derrière, la cendre, la poussière. Ashes to ashes, dust to dust. No more wishes, no more less. Ashes to ashes, dust to dust. Donc à l'épicentre, ne fais pas trop le fier, pénètre dans le ventre, dans le ventre de la terre, et s'il lève les paupières, tu verras tout est décimé, tu verras tout est calciné. Ashes to ashes, dust to dust. No more wishes, no more less. Ashes to ashes, dust to dust. No more wishes,
Demande à la poussière, extrait de l'album du même nom. Le deuxième qui paraît en même temps s'appelle Orange Bleu Amer. Demande à la poussière, la référence c'est John Fonte, j'imagine. Ça fonctionne comment ou alors pas forcément?
Non, en fait c'est ce que j'appelle un sample lexical. En fait moi comme tout le monde quand j'étais adolescent j'ai lu Fonte bien sûr.
Oui, mon chien stupide.
Oui, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de relire Fonte à mon âge quoi. Ou même l'ensemble de la littérature américaine. mais en fait, voilà, c'est...
Tout moi, l'ensemble de la littérature américaine.
Mais moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Je sais pas, j'ai sorti un album en 2013 qui s'appelle La nuit nous appartient, double album.
Ouais.
Et en fait, j'ai pris ce titre-là parce que c'était c'était le titre d'un film de James Gray. Mais j'avais même pas vu le film, en fait. Mais parfois, un titre d'une chanson, d'un film, d'un livre, ça va m'inspirer un truc, en fait.
Et Orange Bleu Amer, ça arrive comment?
C'est une parole qui est extraite du dernier titre de l'album que j'ai sorti l'année dernière, La Traversée.
La Traversée, ouais.
Et dans le texte, il y a ce syntagme. Et en fait, c'est une référence, bien sûr, au vert des lueurs, la terre est bleue comme une orange.
Deux albums de 8 titres, sortis numériques. Ça fonctionne comme une face A et une face B, parce que vous auriez pu faire un album de 8 et 8, 16. 16 titres, c'était possible, surtout pour une sortie numérique.
Ça aurait été très très lourd. Parce qu'en fait, quand je les écoute, je me dis, voilà, 8 titres, 30 minutes, c'est parfait. Comme c'est pas du tout pop, c'est même anti-pop.
Ouais.
Il n'y a aucune séduction, c'est un peu âpre. Donc voilà, c'est des morceaux qui sont quand même assez longs. Donc voilà, moi, j'envisage plus de faire des albums très très longs. Enfin, je sais que j'en ai soupé, en fait. Par exemple, le dernier album de Benjamin Biolay, j'ai essayé de l'écouter, je suis arrivé jusqu'au bout, mais j'étais épuisé, en fait.
Exsangue.
Ouais, exsangue, ouais. Tellement il était long, quoi.
Partagez cet avis, vous, Nicky Miller? Parce qu'il y a des albums de plus en plus longs, ou des doubles albums, par exemple, je pense à Camilla Jordana, on en a reçu aussi, où les albums ont 18 titres, 21 titres parfois, oui.
Bah, c'est surtout répandu dans le rap, alors que dans la variété française, maintenant, enfin, c'est une tendance lourde que j'ai observée, on s'en tient à 10 titres, 30 minutes, 35 minutes.
Nicky Demineur ?
Oui, moi j'aime bien les albums longs, j'aime bien les albums concept, un peu longs, qui prennent leur temps. J'aime bien quand on entend des instruments de musique en fait, quand on sort un petit peu parfois du format couplet-refrain. Et que
quelque chose se met en place.
Ouais, la musicalité prend sa place, je trouve ça agréable.
Mais c'est le cas ici. Alors juste avant ces deux albums, il y a un an exactement, pas jour pour jour, mais quand même presque, en avril dernier, vous sortiez La Traversée, sublime album. On vous avait eu au téléphone, parce que c'était l'époque où on ne pouvait que converser par WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi. Vous aviez le sentiment de n'avoir pas tout dit avec cet album. Il fallait en sortir. Bah, en même temps, quand on écrit je ne sais pas combien de chansons, en effet, il était temps de sortir au fur et à mesure, sans attendre l'album 3 ans plus tard, comme c'est le cas généralement dans l'industrie
musicale. Ah oui, moi je pourrais pas. Et en fait, moi j'ai le budget à peu près tous les 3 ans pour faire un album studio dans les règles. Mais parallèlement à ça, je fais des albums autoproduits, comme ces deux-là, qui sont à budget zéro. Et voilà, pour moi, j'en ai besoin. Alors je saoule tout le monde.
Pour quelle raison?
Parce que
les gens se disent encore,
voilà,
comme on dit pour Jean-Louis Murat.
Je vous laisse la responsabilité.
Non, mais c'est vous qui pensez que les gens disent encore, en fait.
Non, mais à terme, le but, ce serait de sortir vraiment un album par mois, quitte à vraiment à dégoûter les gens, quoi, à les saouler, quoi.
Les gens ne disent même plus encore.
Et vous pensez vraiment que tout doit être publié?
Ah bah non, je fais le tri. Mais en fait, quand je fais une chanson, si je vais jusqu'au bout, c'est qu'elle est réussie, à mes yeux en tout cas. Je suis capable de ressortir une chanson que j'ai écrite il y a 20, 25 ans, et qui me reste toujours en tête, à partir du moment où, enfin, si je la termine, c'est qu'elle tient le coup, quoi.
Deux albums plus noirs que La Traversée. La Traversée, c'était l'album précédent qui annonçait un apaisement. Musicalement, c'était un disque très ample avec violon, clarinette, avec des textes comme celui de La Vie remue, par exemple. Je sais le ravin, je sais le danger et la nuit sans fin. J'en fus exténué du plus reculé. Je suis revenu, réenchanté en moi, la vie remue. Cette fois-ci, les textes, je ne sais pas si La Vie remue, c'est plutôt des textes hantés par la nuit, la faim et la mort, qui est dès la première chanson, par exemple, de Orange Bleu Amer. Ça va bien, Bertrand Betsch?
Oui, mais en fait, j'ai fait une sorte de... j'ai sorti trois albums, Tout Doux, La Vie Apprivoisée, Tout Doux et La Traversée, qui était une sorte de triptyque sur le terme de la résilience. Et voilà, j'en ai eu un peu, j'ai fait le tour de ce thème-là, en fait.
Donc la résilience, c'est fini.
La résilience, pour l'instant, c'est fini, et j'ai tendance à écrire des choses plus sombres maintenant. Mais je relativise ça par le fait que sur ces deux albums numériques, en fait, y a des morceaux qui datent d'il y a plus de 20 ans, et des morceaux plus récents, et des morceaux d'il y a 10 ans, en fait. Moi, je fonctionne toujours comme ça, hein, j'ai un répertoire. Et puis je puise dedans pour en faire quelque chose qui me paraît cohérent et abouti. Quoi.
Et musicalement, ça donne des ambiances très différentes, comme par exemple ce titre-là, « Je ne veux plus danser ». Pour qu'on mesure l'étendue des registres de ces deux albums, autre extrait, L'Ornière.
Tu repars en arrière, tu repars. T'es pas fier, ce qu'il y a derrière, t'es pas fier. Tu sais pas ce que tu perds, tu sais juste ce que tu perds. Et tu siffles ta bière comme hier, avant-hier.
Et enfin, un dernier extrait pour une autre direction, ainsi soit-il. Je voulais qu'on écoute ces trois extraits, j'aurais pu prendre d'autres, hein, mais ils sont très représentatifs parce que quand je pense à La Traversée que j'ai réécoutée et qui est toujours pas très loin de ma platine, La Traversée était un lent dépliement, en fin de compte, non pas d'une seule chanson, mais d'un registre. Et on a l'impression qu'ici, à chaque titre, il y a quelque chose qui est remis en jeu sans avoir le besoin qu'il y ait une unité quelconque, Bertrand Betsch.
Il y a quand même une tonalité électropop, électro-rock, pardon, c'est l'horreur de la pop, électro-rock qui est là présente partout, quoi.
Pourquoi vous avez horreur de la pop?
Parce que je comprends pas, c'est trop compliqué, il y a trop d'accords. À part les Beatles, j'aime beaucoup les Beatles, mais je me souviens, quand j'ai commencé la guitare, j'avais acheté un songbook avec tous les morceaux des Beatles. Et en fait, c'est quand on n'est pas très doué, c'est très difficile à jouer. Et en fait, le seul morceau que j'arrivais à jouer, c'est Obladi Oblada.
Je sais même pas si c'est vrai ou pas.
Non, c'est
j'arrive même pas à y croire.
Si, c'est vrai.
Vous avez quelle formation?
Aucune.
Musicale. Autodidacte?
Autodidacte, oui.
Et vous, Nicky Demiller?
Moi, je suis un ex-autodidacte qui a tourné son veston de rocker pour apprendre l'orchestration et l'arrangement.
Exactement, du côté du cinéma même, voilà. C'est ça, un chef d'orchestre. Ouais. Ça consistait en quoi, en fait ?
Du coup, j'ai été salarié 10 ans. À la fin, on m'a envoyé former un call center à Tunis pour remplacer mes collègues parisiens qui eux-mêmes avaient formé 10 ans avant, ce qui était lugubre. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, oulala, ça va très loin.
Là, ça commence à devenir difficile. Ouais.
Je veux me tirer de là. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir le fonds GESIF, qui est une bourse qu'on peut avoir de formation longue, qui, je crois, aujourd'hui n'existe plus, ou presque plus.
Non, ça a été modifié.
Malheureusement. Eh bien voilà, je suis la preuve vivante que le fonds GESIF fonctionnait parfois. Parce qu'en tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Voilà, j'ai pu reprendre des études et pendant 3 ans, sous la tutelle de Thibaut Renard, un trompettiste du conservatoire de Cergy, qui avait travaillé notamment avec Chassol, qui a été vraiment mon mentor et mon guide dans ce nouvel univers, j'ai appris à écrire pour orchestre. Alors je suis pas un musicien classique, hein, clairement, je suis vraiment un punk qui aime l'orchestration.
Mais ça vous a permis de retrouver la musique que vous aviez abandonnée depuis l'âge des 17 ans.
C'est ça, et ouais. Puis c'est vrai que j'adorais les Ramones, j'adorais les Stooges, mais j'adorais aussi François de Roubaix, Vanier, tout, j'adorais les musiques de films.
François de Roubaix qu'on retrouve dans l'album, on entendra tout à l'heure un extrait. Bertrand Betsch, je regardais les papiers qui sortent chaque fois que vous sortez un album.
Quel rapport avec les fongicides?
Fongessif. Ah, fongessif. Ah non, pas les fongicides. Ah, vous aviez compris, c'est les fongicides.
Oui, tout à l'heure, je vous voyais interloqué en fait. En effet, en disant, grammaticalement, tout se tient, mais le sens n'y est pas. Bertrand Bach, je relisais quelques papiers qui sont là régulièrement quand vous sortez un album. Le succès est critique chaque fois, c'est la même chose dans les portraits. N'a pas la place ni la reconnaissance populaire qu'il devrait avoir. J'imagine qu'au bout d'un moment, ça commence à vous gonfler.
On me le sert depuis 20 ans.
Exactement.
Mais voilà, on finit par en prendre son parti. Hein. Je suis un artiste clando, quoi. Clandestin.
pas vraiment, mais quand même. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé arrêter? Est-ce que ça vous est...
Ah non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je pense que je ferai des albums jusqu'à la fin de mes jours.
De ne pas rencontrer le succès populaire, c'est quelque chose qui est douloureux. Alors même qu'on peut continuer à travailler.
D'être Michel Sardou.
On peut rencontrer le succès populaire. Mais de toute façon, je n'ai rien contre Michel Sardou.
Moi non plus, j'adore ça.
Mais bon, mais c'est pas vraiment, je peux vous dire que j'ai aimé.
Enfin, je peux même vous avouer, enfin, je le dis pas, j'en parle pas souvent, mais je fais des tournées dans les EHPAD où je reprends des chansons de Michel Sardou.
Sardouille.
De Sardou, mais oui, bien sûr, on a bien compris. On va arriver à la fin. Ben, vous restez avec nous. Bertrand Bach et Nicky Lemiller. On a rendez-vous avec Marion et Chaton dans quelques instants. Tout de suite, c'est Françoise Brod que vous connaissez, j'imagine, Bertrand Bach.
Oui, bah, je la connais. Oui. Bah ouais, j'ai vu qu'à Bruxelles, en plus.
Et puis le label Lithium.
Voilà, on était sur le même label. Ouais.
Au départ. Mes péchés s'accumulent, extrait de son album Flux flou de la foule sur France Inter.
Je n'ai pas attendu les jours de canicule pour sentir nos corps qui brûlent, nos langues en feu, mon prince, mon Dieu. J'entends nos membres qui crépitent du feu de la dynamite. Nos langues en feu,
Mes péchés s'accumulent, signé Françoise Brut dans le France Inter.
Côté.
Voici de la musique douce.
Club. Club.
Côté club. Sur France Inter.
Un peu de musique.
Et oui, j'ai changé de préposition. J'ai pas eu envie de dire sur France Inter, j'ai dit dans France Inter.
Mais vous faites bien comme vous voulez.
Exactement.
Laurent, de toute façon.
Le grammairien que je suis.
Exactement.
Marion.
Marion passe un coup de fil à Chaton ce soir, un artiste avec lequel vous avez l'un et l'autre des points communs. Nikki de Miller, Bertrand Betch, je pense à l'indépendance artistique, au côté autobiographique, parfois de l'écriture, à la production intensive. Bonsoir Chaton, bienvenue dans Côté Club.
Bonsoir.
Vous connaissez les univers de Bertrand Betch et de Nikki de Miller?
Je connais pas mal Bertrand Betch, ouais, carrément. J'ai écouté hier, avant-hier, Pas de bras, pas de chocolat, encore, tu vois.
Ah, d'accord. Et vous l'aviez découvert à quelle occasion?
Ça fait un moment, je l'ai vu en concert au CCO de Villeurbanne, il y a peut-être 15 ans de ça. Oh. Et c'était déjà au moment de ce disque, en fait, que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que j'écoute assez régulièrement.
Oui, il croit toujours qu'il est un clandestin. Exactement. Et en fin de compte, il a été dévoilé encore une fois ce soir.
J'ai aucune mémoire, donc je me souviens pas du tout d'avoir joué à Villeurbanne.
Eh ben, pourtant, c'est vrai, monsieur.
Non, mais Villeurbanne, tu sais, ils disent Lyon hein, quand tu joues à Villeurbanne, donc c'était Lyon.
Même à Lyon.
Quand même, ça a dû vous arriver, Bertrand Betch. De votre côté, Nikki.
Tu remets ma parole en question, je t'assure, hein, vraiment.
Non, mais je suis seul sur scène. Je te crois, mais j'ai pas de disque dur, en fait. Donc, je découvre ma vie. Les gens passent leur temps à me raconter ma vie. Ils m'ont dit, voilà, il y a une semaine, t'as dit ça, il y a un mois, t'as dit ça, il y a un an, t'as dit ça, il y a 10 ans, t'as dit ça, il y a 20 ans, t'as dit ça. Enfin, voilà. Je suis témoin de ma vie, en fait.
Il y a 15 ans, tu étais là.
Et Chaton, en tout cas, vous étiez avec nous en présentiel. C'était au mois de février. C'était pour votre album Héros. Vous avez publié vendredi dernier Vie, 7 nouvelles chansons. La cadence s'accélère. Est-ce que c'est la période sans concert qui veut ça, ou est-ce que votre production finalement va beaucoup plus vite que la musique?
Non, en fait, c'est principalement parce que j'ai fait une pause. Bon, je l'ai raconté la dernière fois, mais j'étais un peu bloqué dans les West Indies pendant le confinement, donc ça m'a fait une pause un peu forcée, dont j'avais un peu besoin aussi. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai repris les machines et voilà. Donc, on est un peu conditionné à ne faire que ça, certainement, mais surtout, je suis très très inspiré et je trouve la vie, en tout cas celle que je vis, que j'ai la chance de vivre, très inspirante et je le raconte. Voilà.
Donc du coup, les chansons, les 7 nouvelles chansons qui sont sur Vie n'ont absolument aucun rapport avec celles qui étaient dans Héros. Pas écrit
non,
du tout à la même période.
Ben, il a été fait après, en fait. C'est assez chronologique, mais sorti en général. En fait, tu sais, moi, je sors assez rapidement, assez instantanément quand
je
crée. Ah oui,
5 albums en 3 ans, oui.
Oui, voilà. Il y a un certain rythme. Et puis surtout, je tiens à ça parce que j'essaie que ce soit témoin, en fait, même pour moi, de ma vie, parce que je trouve ça hyper intéressant de moi connaître ma propre vie a posteriori à travers ce que je raconte, vu que je raconte ma vie. Et du coup, j'écris à mesure que je parle, à mesure que je vis, et je publie à mesure aussi, parce que ça évite d'avoir et des regrets d'avoir non publié, parce que tu sais, pendant tout le temps où je travaillais dans la variété pour d'autres gens, je publiais pas beaucoup pour moi. Mm-hmm. Et parfois, j'ai des regrets parce que je tombe sur des choses, sur des disques durs justement, ou sur lesquels j'aurais sans doute été content de les voir exister dans ma vie de cette période, et je peux plus les chanter aujourd'hui puisque c'est plus du tout ma vie. Donc j'évite cette erreur avec moi-même maintenant et je publie à mesure que j'avance.
Alors c'est un album moins familial, hein, Chaton, plus centré sur vous cette fois-ci, je trouve, avec des chansons toujours autobiographiques qui expriment à la fois des regrets sur l'amour qui aurait pu être, et en même temps il y a toujours cette déclaration d'amour à celle qui partage votre vie, Lola. Vous écrivez dans Sonne le vide, Lola décide, je n'ai confiance qu'en elle. C'est la première à écouter vos chansons?
Ouais, c'est la première, mais tu sais, maintenant, en plus, moi, je suis un peu coupé du monde quand même. J'ai pas les réseaux, j'ai pas de téléphone.
Mais oui, il paraît que vous n'avez plus du tout de téléphone. Qu'est-ce qui se passe?
Bah rien, mais en fait c'était un peu contre-productif, je trouvais d'être trop en échange, en fait. J'essaie d'être tellement le plus honnête possible et le plus vrai dans ce que je raconte, que en tout cas j'essaie d'atteindre une forme de vérité, de la mienne en tout cas, que je trouvais que c'était intéressant de pas trop en discuter avec le monde. Qui malgré lui a un avis, même quand il veut bien faire, même quand il vous félicite, le monde oriente, et je trouvais ça intéressant, c'est vraiment de recentrer la chose. Donc les chansons, en réalité, il y a une personne qui les écoute parce que je les fais pas loin, c'est Lola évidemment, enfin il y a aussi mes enfants, et puis ensuite il y a celui qui masterise, qui les écoute parce qu'il les masterise, et puis ensuite elles sortent, en fait. Personne, vous recevez peut-être un lien genre une semaine avant, j'en sais rien,
c'est exactement ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Ouais, trois voilà, jours une avant. Semaine avant. Mais pareil, c'est relativement des gens qui sont quand même, qui me sont proches, qui reçoivent par le biais de mon entourage. Mais on sait pas un envoi massif. Tout le monde ne reçoit pas les gens. Ils le reçoivent en même temps tous à peu près quand ça sort. Et voilà, on en parle après quoi.
Mais alors justement, Chaton, moi je me suis posé la question parce que sur la pochette de cet album, il y a la photo de votre compagne et muse Lola. Il y a votre petite fille, mais il y a même pas votre nom. Vous n'avez plus de téléphone, du coup. Plus du tout de réseaux sociaux. Quand on est indépendant comme vous, pour faire la promotion de votre musique, est-ce que c'est pas un peu suicidaire ?
Je crois pas, je suis au téléphone avec vous, Marion.
Mais oui, c'est parce qu'on se connaît aussi.
Et que vous avez piqué le téléphone à quelqu'un d'autre, voilà. Manifestement.
Mais quand même.
Ouais. Non, mais je crois que ça se passe bien comme ça. Je pense que, vous savez, je pense que les gens qui écoutent ma musique comprennent tout ça. Et je vois bien, et puis on le voit, nous, qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui écoutent mon travail, et je pense qu'ils comprennent, ils cautionnent, et en fait, je pense être assez généreux dans ma démarche, parce que vraiment, je donne le meilleur de moi, le plus possible, etc. Donc, j'imagine que les gens en face, c'est pour eux que je le fais, de toute façon. En réalité, c'est vraiment pour les gens qui prennent le temps d'écouter. Et bah, s'ils sont assez nombreux pour qu'on puisse continuer, comme c'est le cas depuis maintenant 3-4 ans, bah, c'est merveilleux.
Ouais, c'est-à-dire que même économiquement, on peut continuer, quoi.
Bien sûr.
Vous êtes en budget zéro, comme Bertrand Betch par moment. Merci beaucoup, Chaton. On va se quitter avec les bons sentiments. Un mot sur cette chanson ?
Oh, bah, tout est dit dans le texte.
Je peux imaginer.
Alors, on l'écoute.
Merci.
À très bientôt.
Ah là là, c'est déjà demain, je suis encore à mes machines. À vouloir rattraper un train que j'ai manqué à l'origine. Parce que j'étais trop occupé à renifler quelques filles. Que pas une seconde j'ai pensé à surveiller l'aiguille. Il y a 2 minutes j'avais 15 ans, Titi m'achetait de la peau. J'en achetais pour 1000 francs, je lui revendais pour 2. Là je regarde mes enfants et mon père au coin du feu. Forcé de constater qu'avant y'a que pour lui que c'était mieux. Je préférais toujours demain tant qu'il y en a encore un peu. Mais un beau matin c'est certain, ce sera moi le dernier vieux. Là j'écouterai mes vieilles chansons, je me dirai que j'ai fait au mieux. Que petit était la maison, mais qu'immense était le feu. Ça chante le chant des partisans et vend son cul sur la tête. Faudrait dans les bons sentiments, le stream n'est pas glorieux. Si quelques petits riens font tout, plus besoin de faire comme eux. Décidé que pas beaucoup suffirait pour être heureux. Mais vas-y, roll, 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 vas-y, roll-toi dans les bons sentiments. Vas-y, roll, 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 vas-y, roll-toi dans les bons sentiments. Vas-y, roll, 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 vas-y, roll-toi dans les bons sentiments. Vas-y, roll, 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 vas-y, roll-toi dans les bons sentiments. On est bien loin de la vie dont j'étais sûr de rêver. Pourtant je me sens plus en vie que quand j'étais mieux payé. Maintenant que j'ai compris comment ça poussait des nez. J'aime bien finir mes nuits en plein milieu de journée. Tellement de bons sentiments, tellement gênantes complaintes. Quand on sait le comportement, une fois caméra éteinte. Je leur avais pourtant dit, un homme ce n'est pas joli. On en connaît qui ont joué dans leur première partie. Mais vas-y, roll, 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 vas-y, roll-toi dans les bons sentiments. Vas-y, roll, 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 vas-y, roll-toi dans les bons sentiments.
Les bons sentiments de Chaton dans Côté Club avec ce titre issu de son dernier album, ça s'appelle Vie, et c'est disponible sur toutes les plateformes.
Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie.
Côté club.
Série de podcasts par Nicky de Miller. 1999, la préadolescence. À l'époque, j'étais gros, je mangeais beaucoup trop de charcuterie. J'avais rencontré les mecs des Bratz à 12 ans. J'avais de l'acné, j'étais mal dans ma peau. Pour je ne sais quelle raison, les mecs de la bande la plus en vue de l'école m'avaient pris avec eux. Hervé, Ariel, Redouane, Yanis, réunis sous le sigle Harry. Hervé deviendra plus tard le chanteur des Bratz. Yanis, le batteur.
Aux yeux de l'univers, je ne suis rien. Écoliers et militaires, entendez le bien. On nous lève un jour pour nous coucher un autre. On crée l'église, les dieux, les apôtres. Aux yeux de l'univers.
Voilà le son de ce premier groupe, les Bratz, Nicky de Miller. À quel âge donc? 12, 13 ans, c'est ça?
Ouais,
si on en croit le podcast où vous racontez votre itinéraire.
C'est ça, on avait 13 ans en banlieue, effectivement, on s'ennuyait un petit peu et on aimait beaucoup les Ramones, donc on a créé les Bratz.
Comme Zéro de Conduite en fait.
Hein, ben voilà, vous avez trouvé. Vous aviez des groupes aussi quand vous étiez beaucoup plus jeune?
Ah oui, j'en parle pas ça.
C'est vrai?
Ah non,
rien
c'est...
du tout.
Non, c'est une étape secrète, ça doit le rester sinon.
Je suis sûr que vous aviez des groupes.
Ouais. Ouais, mais j'ai très vite abandonné les groupes parce que j'ai un ego trop volumineux.
Vous étiez chanteur à l'intérieur ou vous étiez quoi?
Ouais, j'ai fait un peu tout.
Et vous, Nicky de Miller?
Je voulais pas être chanteur au début, je détestais ma voix, je voulais être
vous
compositeur.
Aussi?
Ouais, pareil. Et je voulais être le compositeur, mais le chanteur nous a plaqué suite à un premier concert au bal des pompiers où sa petite amie lui a dit que nous n'avions aucun avenir.
Et l'avenir, pourtant, il y en a eu un, parce qu'il y a eu l'heure de gloire des Bratz avec la première partie, on en parlait tout à l'heure, d'Iggy Pop au Zénith. Vous le racontez dans cette série de podcasts qui accompagne la sortie de ce premier album, Itinéraire d'un homme qui voulait vivre sa vie. Ça, c'est le podcast. Il fallait un podcast en plus de l'album pour qu'on comprenne bien la dimension album-concept.
J'avais envie, de toute façon, d'écrire avant tout sur le monde du tertiaire.
Ouais.
Parce que ces podcasts racontent effectivement sur deux périodes de narration. L'histoire, entre guillemets, de Nicolas, donc la personne que j'étais lorsque j'étais salarié dans l'événementiel, et de Nicky, du jeune Nicky, donc la période qui a précédé ces années dans le tertiaire, ces années de baby rocker. Et moi, je voulais raconter avant tout le monde de l'entreprise avant.
Qu'est-ce que vous y faisiez dans ce monde de l'entreprise pendant 10 ans, hein, c'est ça?
Oui, pendant 5 ans, je faisais de la mise à jour de base de données sur un grand open space avec un petit casque et un micro, moins sympathique que celui-ci. Et le but était de mettre à jour 50 fiches par jour, voilà, de vérifier coordonnées, nom de la personne, s'il y avait un remplaçant mettre à jour, etc. Et ensuite, je suis devenu commercial et là, je sillonnais l'Île-de-France en autolib pour tenter de décrocher des ventes. Et ça s'est passé pendant les périodes, entre guillemets, d'ubérisation de ce secteur d'activité.
Exactement, ouais.
Et c'est vrai que j'ai ressenti une grande solitude à exercer ce métier, en ayant une sensibilité qui était la mienne, peut-être parce que j'avais voilà, un petit côté artiste du début. Et je me sentais très seul parce que je ne trouvais personne avec qui partager toutes ces histoires, toutes ces choses que je ressentais qui étaient très violentes en fait parfois. Et puis j'ai lu Michel Houellebecq, j'ai lu l'extension du domaine de la lutte, et là, ça a été pour moi révélateur.
De ce que vous étiez en train de vivre,
ouais.
Exactement.
Et puis le bouquin est glauque, et plus c'est glauque, plus moi ça me rendait heureux de me dire que d'autres personnes le vivaient, pouvaient aussi avoir envie d'en rire, et de trouver ça avec du décalage et de la poésie en fait.
Parce que le glauque, vous l'avez touché quand c'était en Tunisie, c'est ça?
Ah là, c'était le fond là.
En deux minutes, en quoi ça consistait? Parce que tout à l'heure vous l'avez évoqué, mais tellement rapidement, je suis pas sûr que Bertrand Betch... ni moi-même avions compris exactement ce qu'il en faisait.
Eh bien, en fait, dans l'entreprise, à un moment, les choses se sont accélérées. Avant, on pouvait mettre des gens au service, par exemple, voilà, satisfaction client, y passer du temps, à voir que les clients étaient contents. Au bout d'un moment, il y a l'ubérisation de tout ce secteur et puis la digitalisation un peu de tous les médias. Donc, il faut aller de plus en plus vite. Et les gens qui étaient là parfois depuis 30, 40 ans, tous ces gens qui avaient des métiers uniques pour toute la vie, c'est ce qui existait avant, ce qui n'existe presque plus. Et ben, ces gens, on leur a dit, soit vous êtes mis à la porte, soit faut devenir commercial. Parce que maintenant, faut vendre. On n'a plus le temps de faire de la qualité client, faut vendre. Et du coup, vu que ça l'a pas fait pour certains d'entre eux, moi, ils m'ont envoyé, former un call center à Tunis qui avait pour vocation à remplacer tous mes collègues sur le plateau qui n'avaient pas passé le cap de l'ubérisation.
Et donc je me retrouvais là-bas dans un palace 5 étoiles à former des gens sous-payés qui étaient là pour remplacer mes collègues de France. C'était abominable. Dans un pays juste après la révolution du printemps arabe, où c'était quand même vraiment compliqué, où des gens avaient entamé des études supérieures, avaient dû les abandonner et se retrouver à bosser au sol de l'Occident dans des call centers inhumains. Donc c'était vraiment dur de constater tout ça, de voir un peu l'ordre des choses.
Et alors à quel moment vous avez compris que ça allait devenir la matière d'un album et du premier album en fait ?
Eh ben, en fait, moi pendant toutes ces années dans le tertiaire, je continuais quand même un petit peu à composer des chansons dans ma chambre, sur mon ordi. Mais c'est vrai que j'aimais pas ma voix, j'aimais pas ma façon de chanter, j'étais un peu prisonnier de ce monde du rock d'où j'étais originaire. En même temps, j'étais très sensible, quand je regardais le samouraï, je voyais les scores musicaux, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais trouver cette émotion dans la musique. J'en étais bien incapable. Et bref, je pouvais pas me jeter à l'eau, c'était impossible. J'embêtais mes copains sans cesse à leur faire écouter. Je pense qu'avant de faire ce premier album, j'ai dû en faire 6 que j'ai jeté à la poubelle, quoi. Vraiment, je les embêtais sans arrêt à leur faire écouter mes maquettes. Et c'est quand il y a eu ce truc du tertiaire, c'est quand il y a eu ce truc en fait de la contrainte où je me suis dit bah là ça y est je peux y aller, j'ai une contrainte, donc ça m'a permis de me mettre à fond.
Et donc de composer un album concept, voilà. Premier album concept.
Oui.
Avec un titre dont vous rappelez.
Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie.
Qui vous a empêché de vivre votre vie ?
Ah bah c'est moi comme toujours dans ces moments-là, on est prisonnier de ses lubies, on est prisonnier de ses peurs aussi. Et voilà, je vivais une vie qui n'était pas la mienne parce que je n'osais pas m'affranchir en fait de certaines. On a certaines prisons personnelles sans arrêt qui nous empêchent de passer le cap et de se réaliser.
Bertrand Betsch, vous avez le sentiment de vivre véritablement votre vie, même si vous ne vous en souvenez jamais, d'après ce que vous disiez tout à l'heure.
Ben je suis dans le présent et voilà, c'est. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir, je suis comme sur une tête d'épingle en fait.
Pour autant, l'année prochaine, vous allez fêter 25 ans de carrière, j'imagine que vous commencez à regarder.
Ah bah ça va être la fête de la mairie, ça. Mais il y a un truc qui m'a. Je voulais revenir en arrière, c'est que tout à l'heure, on a eu Chaton au téléphone et il n'a pas de téléphone. Donc il était au.
Oui, c'est ce que j'ai dit, il a dû piquer à
quelqu'un. Non, c'était son attaché de presse qui lui avait prêté son téléphone.
Ah, c'est ça, me turlupine depuis tout à l'heure. Et... Ah, oui. J'étais pas bien avec ça.
Il faut mettre les choses au clair.
Bien sûr.
Alors, on va écouter tout à l'heure, Nicky de Miller, le titre qu'on a choisi de passer. Mais tout de suite, je voudrais qu'on passe un extrait, un duo avec Didier Vampas, Hyper Bipolaire. Un titre dont la composition musicale est un petit peu à part. J'imagine que c'est viral, c'est Didier Vampas qui a fait en sorte de faire bifurquer le titre. Quel est le symbole de Didier Vampas pour qu'il soit présent dans cet album sur le travail, le monde du tertiaire ?
En fait, je dois dire que c'est un peu mon parrain musical à l'époque des Bratz, des chanteurs et des gens du milieu que j'ai pu côtoyer. C'est la personne qui m'inspirait le plus. Parce que c'est quelqu'un de très bien. Et du coup, à l'époque des Bratz, j'ai fait leur rodi plusieurs fois. Et quand lui, il a fait un album solo, il m'a invité à chanter un duo avec lui sur son premier album solo, sur un morceau qui s'appelait La Troisième Corde. Et du coup, voilà, à ce moment, un peu de bilan de ces 30 premières années de vie que représente mon premier album, je voulais qu'il soit là. Ça n'a rien à voir avec le tertiaire.
Juste pour revenir sur la voix tout à l'heure, on a commencé l'émission avec Bertrand Betsch qui disait qu'il n'aimait pas sa voix, qui était une voix... Soufflé, c'est ça ?
Oui.
Et pas timbré. Et vous, qu'est-ce que vous reprochiez à votre voix, Nicky de Miller ?
Oh, bah. Je savais pas comment la mettre en scène. Je savais. En fait, c'était très dur pour moi de. Quand j'étais jeune, j'aimais autant les Stooges qu'Edith Piaf.
Ouais, c'est vrai que le spectre est large.
C'était complexe de trouver.
Mais ça envoie dans les deux cas.
Voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'artiste-interprète qui met ses tripes sur la table, que j'aimais chez les deux. Et c'est vrai que moi, j'arrivais pas à trouver ma place dans tout ça. Il m'a fallu beaucoup de temps. Voilà, tout simplement. Beaucoup de temps.
On va écouter tout de suite le titre. Alors je regarde quel est le titre. Ah oui, c'est Septembre à nouveau, c'est le titre qui ouvre l'album.
Oui.
Autopsie d'un homme qui voudrait
vivre sa vie.
Vivre sa vie. J'ai toujours envie d'y réussir, mais je crois que j'ai reparti. Oui, oui, c'est de vivre sa vie, c'est pas du tout la même chose. Vivre sa vie et réussir sa vie. Un mot sur ce titre, Nicky de Miller.
Septembre à nouveau, que je chante en duo avec moi aussi ma muse Elena Castello. C'est une carte postale en fait envoyée du bureau pour se promettre que la vie va changer. Voilà, c'est la rentrée dont on ne veut pas. C'est je veux que la prochaine rentrée soit différente.
Septembre à nouveau, me revoilà. J'ai pas de résolution, je sais pas trop où je vais. Septembre, pour la première fois, je suis paumé. J'accepte de ne plus rien contrôler. C'est peut-être le début du progrès. Un cadre, on dirait un miroir. Cette ville me renvoie à des horizons blafards. Non, cette année c'est sûr, je ne veux rien projeter. Voir et laisser venir, surtout me concentrer.
Septembre à nouveau avec une orchestration parfois à la Goblins du film de Dario Argento pour le côté anxiogène. Vous aviez une réflexion, Bertrand Betsch, juste au sortir de...
Oui, en fait, on est dans une période où tous les disques sont formatés et on est dans l'électropop en carton. Et là, c'est plaisant d'entendre des vrais instruments, quoi. C'est vraiment, en ce moment, c'est très rare, quoi. J'ai l'impression que tous les artistes, les jeunes artistes sonnent de la même façon, quoi.
Oui.
Nicky Miller.
Bah, c'est vrai que moi j'ai fait ce disque sans avoir l'intention de plaire à qui que ce soit déjà, parce que je voulais vraiment que ce soit un disque autobiographique et qui me représente. Donc j'ai fait aucun effort. Et puis en fait, je sortais de cette formation d'arrangeur, voilà, d'orchestration. Je venais de faire le Station to Station de Bowie pour un orchestre harmonique, joué par des petits enfants de 12 ans qui
comment ils se la pètent,
qui m'ont massacré ma pièce, c'était l'enfer et tout. Et, mais c'était super en même temps comme expérience. Et du coup, je voulais à tout prix travailler avec des instruments, ouais, des timbres classiques entre guillemets. Du coup, j'ai invité un peu tous mes camarades de classe chez moi et je les ai enregistrés à tour de rôle, violoncelle, violon, clarinette, et moi au piano. Tout ça enregistré dans ma chambre.
Mais ça manque d'autotune, quand même.
Ah, exactement. Tout le monde n'est pas chaton, monsieur Bertrand Betch. Merci, c'est la fin de Côté Club. Merci, Nicky Demiller. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie, c'est le premier album redoublé d'une série de podcasts intitulé Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Bertrand Betch, merci à vous.
Merci à vous.
Deux albums, Demande à la poussière et Orange bleu amer, sans oublier La traversée, que j'avais adoré à l'époque. Marion?
Le nouvel album de Chaton vit. Eh ben, il vit sur toutes les plateformes.
Demain, on a rendez-vous avec le duo de rappeurs belges Caballero et Jean Jass. Marion, pour vous?
Zoom sur le premier titre solo de Gaspard Auger en vacances du duo Justice.
Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.
On commence du TV? Côté.
Oui.
Club.
Bye. Bye.